Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Votre vie est-elle un fardeau ? Le poids de l'existence est-il devenu une charge, une érosion progressive pour vous ? Êtes-vous englué dans la routine ? Avez-vous déjà eu l'idée de changer de métier, de claquer la porte, de changer de vie tout simplement ? Avez-vous déjà réfléchi à votre destin ? Pensez-vous qu'il soit tracé de manière inexorable ? Vous sentez-vous paralysé, incapable de prendre une décision et victime de procrastination dans la conduite de votre changement de vie ? Bref, aspirez-vous à une maîtrise de votre destin et à davantage de liberté ? Si vous ne savez pas comment réagir, alors il y a peut-être une solution qui consiste à découvrir les logiques visibles ou invisible du destin, en prenant conscience qu'il n'est pas forcément un long fleuve tranquille, mais souvent une succession de zigzags. Il est donc peut-être temps de vous pencher sur les notions de liberté de choix et de déterminisme, de réussite et d'échec du processus de changement, de kéros, de névrose de destinée, de détonateur intime, de vengeance et de revanche, de faussaire de destinée, de pacte diabolique, de tuteur de destin, de visiteur du moi ou d'ambivalence. C'est justement ce que vous propose le professeur Laurent Schmitt dans son nouvel ouvrage « Les lapsus du destin », sous-titré « Nos choix de vie », paru en 2023 chez Odile Jacob et qui vous donnera quelques clés sur le sujet et surtout vous amènera à vous poser les bonnes questions. Professeur Laurent Schmitt, bonjour.
Bonjour à vous.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à Radio Présence. Bonjour à nos fidèles auditeurs. Alors professeur Schmitt, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir si vous étiez destiné à écrire des livres et à faire de la radio.
Alors, à faire de la radio, en aucun cas. À écrire des livres, j'ai commencé par écrire des livres dans ma profession. Je suis psychiatre au CHU de Toulouse. Et donc, j'ai écrit des livres professionnels, notamment sur la psychothérapie. Et c'est après, au travers des rencontres avec des personnes ou que j'ai soignées ou qui sont venues se confier, que l'idée des livres est apparue.
Voilà. Et en quelque sorte, que votre destin était un peu orienté.
Exactement.
Parfait. Alors, pour nos éditeurs, je rappelle donc, comme vous venez de l'évoquer, que vous êtes professeur émérite de psychiatrie à la Faculté de Santé de Toulouse, que vous êtes responsable de la cellule d'urgence médico-psychologique de l'Occitanie à Purpan, et que vous dirigez donc une équipe de recherche, j'ai compris, qui travaillait sur le stress et le traumatisme.
Alors, ça a été le cas, mais maintenant, d'autres plus jeunes ont pris le flambeau et de manière excellente.
D'accord. Et vous avez continué sur une spécialité particulière, une activité particulière ?
Là, j'ai pas mal de consultations et l'activité à la CUMP.
D'accord. Et vous êtes par ailleurs président de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie d'Occitanie.
Alors ça, peu de gens connaissent le Parlement sanitaire de l'Occitanie. Et chaque grande région française dispose d'un parlement sanitaire, c'est-à-dire d'une structure où les usagers, les professionnels de santé, mais aussi les élus territoriaux, mais aussi les responsables des coordinations médicales, infirmières, kinés, ont un lieu où elles s'expriment et qui suit la santé dans notre région. C'est cette conférence régionale des soins et de l'autonomie, et merci de me permettre d'en faire un peu de publicité.
D'accord. Et est-ce que ce Parlement a fonctionné pendant la pandémie ?
Il fonctionne tout le temps. Pendant la pandémie, nous avons eu, bien sûr, des rencontres en visio et moins fréquentes. Mais pendant la pandémie, il s'est penché sur les mesures barrières, la facilitation pour la vaccination. Et, je veux dire, il a fonctionné vraiment et de manière très intense. Comment améliorer les conditions d'accès dans les EHPAD ou les maisons de retraite ? Quelles étaient les mesures barrières quand on recevait des gens à la maison ? Enfin, il a fonctionné vraiment sans discontinuité.
Merci beaucoup pour ces informations, effectivement, qu'on ignore, hein. Général. Alors, vous êtes déjà, j'allais dire, un écrivain qui a produit beaucoup de livres. Alors, pour les, j'en ai retenu trois pour donner à nos auditeurs un petit peu, pour donner une idée sur les sujets que vous traitez. Alors, en 2017... Vous avez publié chez Odile Jacob. D'ailleurs, les trois livres que j'ai retenus sont tous chez Odile Jacob. Vous êtes très fidèle à votre éditrice.
Alors, je remercie même Odile Jacob de m'avoir avec beaucoup de cœur et toujours beaucoup d'amitié ouvert sa maison. Et je considère que je fais un peu partie de sa maison.
Voilà. Alors, en 2017, vous publiez Le Secret. Vous vous expliquez comment des activités psychiques secrètes protègent notre vie et nous permettent donc de rester debout, de ne pas sombrer dans la dépression. En 2014, Le Bal des Égos, qui est une analyse de l'émergence croissante de personnes à l'ego démesuré au sein de notre société. Et vous tentez de donner, je dirais, un petit manuel de survie face à ces personnalités fortes.
Il y a effectivement une émergence de personnalités de plus en plus fortes et de plus en plus auto-centrées, c'est-à-dire qui se reconnaissent elles d'abord, elles uniquement et elles toujours. Et c'est pas toujours si simple de vivre avec ces égos surdimensionnés.
Voilà, et on le voit d'ailleurs dans tous les milieux, que ce soit le milieu professionnel, le milieu politique,
effectivement. Bien sûr.
Et en 2010, vous avez publié Du temps pour soi, qui est une analyse fine de notre rapport au temps et qui peut permettre de se recaler par rapport à ses propres rythmes.
Et peut-être aussi que dans la réflexion sur nos destinées ou nos choix de vie, la question de la temporalité est tout simplement d'avoir un peu plus de liberté par rapport au temps et peut rentrer dans la réflexion.
Voilà. Alors, votre réponse fait un enchaînement vers ma prochaine question, c'est pourquoi écrire sur le destin ?
Eh bien, parce que au travers de plusieurs événements, d'abord la pandémie Covid, ensuite la guerre qui s'est déclarée entre l'Ukraine et la Russie, et enfin toute une série de bouleversements climatiques, il y a eu de plus en plus d'interrogations qui existaient, mais de manière éparse et pas toujours si fréquente, auprès de jeunes générations sur le sens de la vie, leur trajectoire et finalement quelle était la vie qu'ils souhaitaient. J'ai parlé des jeunes générations, mais ça a touché un large pan de la population.
Alors, est-ce que vous avez une définition, votre définition du destin ?
Alors, je ne sais pas si j'ai une définition personnelle, mais le destin, c'est à la fois la trajectoire de notre existence, avec les accidents et les événements qui l'émaillent, et enfin, pour certains, une réflexion, comment dire, une petite prise de distance pour se dire, mais quel est le cours de ma vie et où je vais ?
Voilà. Alors, la thèse du livre. Alors, peut-être même avant la thèse du livre, je me faisais la réflexion, c'est qu'on va le voir tout à l'heure, votre ouvrage délivre beaucoup d'informations, d'analyses, et fait référence à la littérature, à des auteurs classiques, anciens. Et je n'ai pas trouvé de dédicace sur votre livre. C'est intentionnel ?
Alors, il n'y a pas de dédicace, mais il y a des remerciements.
Exact, oui.
Alors, je ne sais pas si c'est intentionnel. Ce livre devrait être dédicacé à toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui, d'une manière ou d'une autre, soit m'ont interrogé à titre professionnel ou personnel sur une réflexion, un accompagnement sur leur trajectoire de vie.
Donc, la thèse du livre, vous pouvez nous la résumer ?
Je pourrais dire que dans les changements de vie, et je nuance bien ce terme, ce livre s'intéresse à des changements radicaux de l'existence, c'est-à-dire vraiment des zigzags ou des prises des nouvelles vies. Il y a des éléments qui peuvent nous gouverner, soit des éléments biologiques, soit beaucoup d'éléments qui sont moins conscients, c'est-à-dire qui peuvent être dictés par une histoire familiale, par des secrets familiaux, par des personnes emblématiques auxquelles on s'identifie un peu, d'où le terme de lapsus, c'est-à-dire que ces changements de vie sont en fait une révélation d'autres éléments moins apparents qu'il faut parfois aider à décrypter.
Et au-delà de cette constatation, vous semblez dire dans ce livre que pour éviter d'être le jouet du destin, quelque part, il est nécessaire de mieux se connaître, de se connaître en profondeur, justement.
En tout cas, si on... Alors ça correspond à chacun d'entre nous, l'intérêt d'une meilleure connaissance, mais en tout cas, de pouvoir lancer une réflexion. Cette réflexion, elle peut être personnelle, elle peut être amicale, et je pense que si on a de bons amis, ils peuvent jouer un rôle important dans l'existence. Vous vous rappelez du lien amical entre Montaigne et la Boétie, avec cette phrase que tout le monde connaît, parce que c'était lui, parce que c'était moi, et la découverte de soi avec l'aide d'un ami. Et puis, ça peut être aussi fait avec un professionnel. Point.
Voilà. Alors, on va revenir sur ces différentes questions à se poser, hein, finalement, plus en détail, sachant que il y a à la fois dans l'intervention, dans le façonnage du destin, des facteurs apparents ou cachés, on va y revenir. Ce que vous dites aussi, c'est, et ce que vous venez d'expliquer, c'est l'influence sur l'individu de son entourage, de ses proches. Et puis, chacun mesure aussi peut-être de manière différente l'évaluation ou la qualification d'une réussite ou d'un échec.
Alors, ça c'est à l'aune de chacun.
Ouais.
Il y a des gens qui ont des réussites spectaculaires, qu'ils vivent eux comme des échecs, ou l'inverse. Donc ça, je crois que ce qui compte le plus, c'est la réflexion qu'on entame sur cette trajectoire de vie, ce qu'on en pense et comment on aimerait participer à son évolution.
Alors, nous allons voir comment ce que vous proposez de faire découvrir au lecteur, d'une part, tout ce qu'on pourrait qualifier de, et que vous qualifiez de logique visible et invisible du destin, et ensuite, comment fait-on, enfin, par rapport au besoin de réinventer sa vie, quelle est la démarche? C'est ce que nous allons essayer de voir un petit peu en détail. Donc, nous allons faire une première pause musicale.
Entre deux gros concerts, entre deux courants d'air, entre ceux qui disent oui, qui disent non, j'ai fait l'inventaire. Si rester c'est l'enfer, si partir c'est dans l'air, est-ce que je dois secouer 40 années de ma vie de sédentaire? Et pourquoi je quitterais la vue que j'ai depuis ma terrasse? Elle est très bien ma vue, il est très bien mon quartier. Et pourquoi je quitterais mes potes et mon voisin d'en face? C'est ici que je suis moi-même et serein et entier. Et pourtant ça me tente, et pourtant ça me chante, et pourtant ça rentre pas dans mon schéma et c'est ça qui se tente. Et pourtant je le sens, je le crains, je le fuis et je le veux. Tailler un peu la route avant d'être vieux. Comprendre les couleurs et les douceurs des lointaines chaleurs. Apprendre les lumières lunaires des cités étrangères. Voir avec bonheur comment les enfants dansent ailleurs. Me fabriquer d'autres repères pour quand je ferme les paupières.
Il ne ne savent pas que je mords, que ma vie sans le soufre. Je passe en météore comme on passera tous. Je suis fait de pierre granit mais d'un cœur grenadine. Quand t'effriteras ton shit, moi je taillerai ma mine. Ouais, je taillerai la route. Ici j'ai plus d'attache, j'irai me planquer dans la soute. Si pour moi y a plus la place, qu'ils aillent gratter leur croûte. Cette bande de fils de lâches, obsédés par leur souche. Moi je suis amoureux du large. Je veux faire des milliers de miles, me languir de mille romans, m'arrimer au rythme, l'enlire en moi la calme, mes deux milliers de mots, admirer le monde, la lune, l'onde de la mer, au loin la lumière de l'aube sur l'eau, en naviguant d'île en îlot, éviter les vagues et livrer combat à l'hydre du mal, et j'ai vidé les larmes de longue date, j'habite le large, satisfé de l'or, des jours qui passent pour raviver l'âme, marcher le feu dans la lanterne jusqu'à la libella.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes en compagnie du professeur Laurent Schmitt pour son ouvrage Les lapsus du destin, paru cette année aux éditions Odile Jacob. Professeur Schmitt, qu'est-ce qui a motivé le choix de cette chanson que nous venons d'écouter ?
Simplement les interrogations sur sa vie et l'envie de changer et de tailler la route, comme dit Grand Corps Malade. Et aussi parce que Grand Corps Malade a eu dans sa destinée des événements très importants, qu'un accident majeur dont il s'est remis et dont, qui a représenté une inflexion importante de sa vie.
Alors, d'une manière générale, peut-on répondre à la question pourquoi s'intéresser à son destin ? Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à notre époque ou c'est une question de toujours ?
Ça a toujours été une question. Vous savez, depuis l'aube de l'humanité, on a cherché à savoir quel serait l'avenir de l'homme. Hein, les grands prêtres, les voyantes, tout le monde essayait de savoir de quoi l'avenir serait fait. Alors l'avenir, c'est une partie du destin, mais il y a aussi la réflexion sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'autre partie. Et à un moment, notamment quand il y a des situations où, de crise, ou de contraintes, ou d'ennui, eh bien une réflexion se met en place sur quelle est notre trajectoire de vie.
Alors, avant d'aller plus en détail justement sur ce sujet, vous écrivez dans votre livre que le destin tire les ficelles bien avant notre vie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Alors ça, c'est très très simple. Toutes les mamans enceintes ont des rêves pour leurs enfants. Il sera ceci, cela ou autre chose. Et certaines font écouter de la musique à leur enfant dans le ventre, d'autres massent le ventre en essayant de faire passer des ondes positives. Il y a bien avant que nous naissions une histoire. Cette histoire peut aussi rentrer dans l'histoire familiale, avec des familles prédestinées où on dit tu seras militaire, tu seras médecin, tu seras avocat ou autre chose. Et donc, il y a dans notre destin des éléments qui, bien avant que nous commencions notre réflexion, nous orientent.
D'accord. Alors, le destin étant une longue histoire et un sujet de préoccupation de l'humanité depuis longtemps, vous examinez les différentes position philosophique classique et vous faites ressortir la question récurrente sur le sujet qui est la balance entre la liberté de choix et le déterminisme en citant un certain nombre d'auteurs comme Épictète. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette problématique liberté-déterminisme ?
Alors, personne n'a trouvé la solution entre les parties de nous-mêmes, dont les parties biologiques. Une partie de notre destin est orientée par notre génétique, notre génome, qui peut décider de la durée de notre vie, de l'apparition ou du risque d'apparition de certaines maladies. Donc ça, c'est le déterminisme. Il est parfois absolu dans certains cas. Et de l'autre côté, est-ce que nous avons une illusion ou est-ce que nous arrivons à infléchir notre destin, c'est-à-dire à prendre un certain nombre de décisions? La position de Camus dans le mythe de Sisyphe, qui est de dire, mais finalement, l'homme, il remonte la pente avec son roc et arrivé au sommet, ça redescend et c'est inlassable, donc ça serait une vision presque pessimiste, si ce n'est que Camus dit, mais il y a tellement de façons de remonter la pente avec son roc, d'y faire attention, de trouver des choses sur le chemin, qui fait que ça n'est jamais la même chose et qui donne une sorte d'ouverture sur l'existence.
D'accord. Alors vous citez aussi le acidisme comme philosophie de... par rapport au destin.
Oui, qui est presque une injonction optimiste, voilà. De parcourir la vie et d'en trouver tous les aspects positifs et tous les aspects, j'allais dire, qui donnent de la joie. Et donc, il y a toute une confrontation, et je vous remercie d'y faire allusion, entre des positions existentialistes, des positions, un peu plus pessimistes et dans cette approche.
D'accord. Alors, la génétique a une influence. Alors, vous venez de donner une partie d'explication par rapport à la génétique, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, nous sommes déterminés par le génome, etc. Et puis, il y a aussi des manières, finalement, maintenant, avec les progrès de la science, finalement, d'influer sur les destins par rapport à des problématiques génétiques aussi, ce qui amène un peu de liberté ou de marge de manœuvre.
Vous connaissez sans doute l'expression anglaise sur le secret d'une vie réussie. Alors, pardonnez l'accent. « Good genes, good habits and luck ». De bons gènes, une bonne génétique, de bonnes habitudes de vie, et là on peut les infléchir,
ouais.
Et du bol, de la chance.
Voilà, tout à fait ça. Alors, dans les logiques, il y a des choses qui sont plus ou moins apparentes, et lorsqu'on parle du destin, forcément, on aborde automatiquement la problématique du changement de vie. Et la problématique du changement de vie, ça se constate, ça s'expérimente très souvent dans les trajectoires de vie professionnelle. Alors, là, vous développez effectivement un tableau sur le destin et la vie professionnelle. Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
C'est sûrement un des aspects les plus passionnants actuellement. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes professionnels remettent en question leur trajectoire sur plusieurs facteurs. Le facteur le plus connu, qu'on entend le plus souvent, c'est la quête de sens. C'est-à-dire de se dire, est-ce que ce que nous faisons est quelque chose d'utile ou de moins utile ? Mais derrière cette quête de sens, il y a d'autres facteurs qui sont le respect d'un certain nombre de valeurs et la perception que dans plusieurs entreprises, entre les valeurs affichées, prônées et la réalité du quotidien, il y a un hiatus assez important auquel les jeunes générations sont très sensibles. Et donc, ce qui autrefois était un facteur, je veux dire, rester dans l'entreprise et y passer le plus de temps, c'était un élément de stabilité et de sécurité. Les jeunes générations peuvent le voir très différemment, et ce, d'autant que l'entreprise ne leur accorde pas une vraie reconnaissance et une qualité d'activité qui donne une vraie signification à leur vie.
D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui est très spécifique de la génération Z.
Oui.
Et est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que cette attitude-là, finalement, c'est une adaptation de cette génération aux conditions qui leur sont imposées finalement, et une remise en cause de leur idée, de leur positionnement vis-à-vis du travail en général.
Alors, vous savez, il y avait les dictons populaires, pierre qui roule, n'amasse pas mousse,
ouais,
qui tendaient à laisser les gens dans une forme de stabilité. Pour des générations plus jeunes, cette stabilité n'a pas grand sens si elle ne leur apporte pas un certain nombre d'éléments positifs. Et elle peut être vécue comme une stabilité, mais comment dire, annonciatrice de la vieillesse et de la mort. Donc le changement est souvent prôné.
Voilà. C'est le changement en tant que style de vie et quelque part un petit peu une obligation en termes de réaction.
À condition que le contexte ne soit pas satisfaisant. Parce que des fois on trouve un contexte, et des fois ce qui peut heurter des jeunes générations, c'est qu'entre le contexte affiché, vendu, prôné, la réalité, ils sentent que c'est pas tout à fait ça. Je raconte l'histoire d'une juriste qui travaille dans une grande entreprise aéronautique toulousaine, qui fait des contrats, et qui, au même moment, c'est l'époque de la pandémie Covid, s'aperçoit que plusieurs des pays avec lesquels elle fait des contrats, qui sont bien sûr au meilleur avantage de son entreprise, n'arrive pas à se procurer des vaccins et ont des... Et elle se dit, mais il y a un gap. D'ailleurs, d'un côté, on me demande de faire des contrats, j'allais dire, qui ramènent beaucoup de bénéfices. De l'autre côté, ces pays, beaucoup de gens meurent. Et ce hiatus, lui, est insupportable.
Un hiatus d'éthique, finalement.
Oui, exactement.
Alors, vous parlez aussi... au sujet de la vie professionnelle, d'un besoin d'action palpable, définissable, concret. Ça veut dire que c'est un élément très important aussi par rapport à cette génération ou d'une manière générale.
Permettez-moi de vous raconter une histoire toulousaine qui se passe le dimanche au marché de Saint-Aubin, où je rencontre une boulangère qui vend du pain et qui le fabrique, et je dois dire, c'est un excellent pain. Cette boulangère a été professeure agrégée de mathématiques. Et elle me dit, parce que je lui pose quelques questions, mais bon, les équations, les intégrales, tout ça, c'est bien, mais c'est pas tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, certes, je fais de l'enseignement, mais elle a eu besoin de faire quelque chose d'un peu plus palpable, et de donner un sens à sa vie. Et donc, elle passe un CAP de boulangerie. Et voilà un changement d'existence.
Voilà. Et est-ce que c'est ce changement d'existence, c'est quelque chose qui est davantage lié à la génération Z, ou ça peut toucher toutes les couches d'âge, je dirais?
Ah, moi, je pense que ça peut toucher toutes les couches d'âge, vraiment. Mais ce qui est plus marqué, c'est que le contexte actuel, dont j'ai dit un mot il y a quelques minutes, a accéléré le processus. Ça a toujours existé, des changements d'existence.
Alors, parmi les accélérateurs, il y a évidemment la pandémie, dont vous avez dit un mot tout à l'heure. Alors, la pandémie, dans quel sens elle a accéléré ce besoin, je dirais, de changement de vie, ou au moins ce questionnement par rapport à son propre destin?
Peut-être qu'il y a eu deux grandes directions. Premièrement, l'insécurité, c'est-à-dire se rendre compte à un moment que la nature pouvait reprendre des droits que l'homme pensait contrôler, c'est-à-dire que les progrès de la science avaient donné l'illusion que tout était sous contrôle, et voilà quelque chose qui n'est plus sous contrôle et qu'on a du mal à maîtriser. Donc, première direction. Et deuxième direction, la contrainte. C'est-à-dire que par rapport à des générations qui ont été élevées dans le sacre de la liberté, soudain, toute une série de contraintes arrivent. On ne peut plus sortir. Le télétravail vous maintient chez vous. On vous demande de ne pas rencontrer des amis. On vous empêche d'aller dans des bars, dans des restaurants. On vous demande de vous faire vacciner. Soudain, vous vous interrogez sur ces éléments qui viennent infléchir votre existence.
Et en même temps, élément supplémentaire, c'est, je dirais, des certaines conditions de travail dégradées dans le cadre de cette pandémie, parce que on peut louer les bienfaits du télétravail, mais le télétravail a ses limites par rapport à ce sujet, notamment.
Tout à fait. Et dans mon propre métier, j'ai vu les différences entre les consultations avec des personnes qu'on voit en face à face et les téléconsultations. Je veux dire, ça ne se substitue pas en totalité.
Voilà.
Le télétravail, voilà, oui. Votre remarque est tout à fait juste.
D'accord. Bien, je vous propose de faire notre seconde pause musicale.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie du professeur Laurent Schmitt pour son ouvrage Les lapsus du destin, paru cette année aux éditions Odile Jacob. Nous venons d'écouter un extrait de la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Professeur Schmitt, pourquoi avez-vous choisi ce morceau ?
Parce que le Nouveau Monde a été, au début du XXe siècle, sans doute une attraction et un souhait de changement de vie pour des Irlandais, des Basques, des Bretons, Bretons, des Polonais, qui tous ont pris l'idée de l'émigration pour aller vers un monde meilleur. Et j'ai oublié X peuples d'Europe qui ont envoyé comme ça des gens vers les États-Unis.
Et si on rebondit par rapport au sujet que nous évoquions précédemment à la pandémie, la symphonie du Nouveau Monde pourrait illustrer le monde d'après.
Exactement.
Alors, dans la problématique du destin, qui est liée, vous l'avez rappelé, au changement et donc au choix, à la problématique du choix, vous dites que le kéros est un élément essentiel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le kéros ?
Dans la mythologie grecque, il y a un dieu qui a des ailes à ses pieds, et donc une apparence humaine comme la plupart des dieux. Et sur la tête est dégarnie, mais il y a une touffe de cheveux. Ce dieu représente l'instant décisif, c'est-à-dire le moment du choix et du changement. Comme il a des pieds ailés, on comprend qu'il va vite. Et comme il a une seule touffe de cheveux, on comprend que soit on saisit cette touffe et la vie peut changer, soit on la rate et les choses se poursuivent parce qu'on n'a pas vu que le moment était décisif ou qu'on n'a pas su l'attraper.
Ce qui signifie donc en profondeur qu'il ne faut pas rater le coche, qu'il faut savoir saisir des opportunités.
Écoutez, tout Toulousain qui a vu le match de rugby entre La Rochelle et Toulouse a vu dans les dernières minutes ce que le kéros veut dire. C'est-à-dire que dans une fraction de seconde, il y a une ouverture qui va vers l'essai et quelqu'un a su s'en saisir. Voilà, je ne peux pas trouver une meilleure définition du kéros.
Voilà, nous avons une définition d'actualité du kéros parfaite. Alors, vous parlez quand même, dans votre exemple que vous venez de citer, on l'a vu tout ça. Hein, on a vu comment ça s'est passé, on a vu ce changement, mais vous parlez de signaux invisibles du destin. Alors quels sont-ils ces signaux ?
Alors souvent, il y a des logiques du destin qui ne sont pas au premier plan. Il y a des identifications, c'est-à-dire des personnes qui ont une place importante dans notre vie, qui peuvent nous orienter. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout prévu, c'est le coup de foudre. Voilà une logique absolument invisible. Les coups de foudre, par définition, ne sont ni anticipés ni prévus. Et pourtant, ils vont faire changer la vie à beaucoup de personnes.
On va y revenir un peu en détail sur le sujet de l'amour dans le destin. Vous donnez par exemple vous venez de donner l'exemple du rugby, une illustration du kéros par rapport au président Biden.
Oui. L'Amérique du Nord, c'est quand même le pays où la défense de la jeunesse est sans doute la plus active. On dit il n'y a pas de place pour les vieux. Et vous connaissez les candidats qui étaient en présence, aucun n'était jeune, Trump contre Biden. Et à un moment, Biden a senti ce qui était une des préoccupations. Et c'est ça l'instant décisif. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que, je ne veux pas faire de politique, mais qu'un des soucis du peuple américain, c'était la sécurité vis-à-vis de la pandémie Covid et la réunification de tout par rapport à X conflit. Il l'a perçu. Il a senti que c'était le point important et il a axé sa campagne là-dessus.
Voilà. Un autre exemple qui illustre bien effectivement cette notion de kéros. Dans les logiques, qu'elles soient visibles ou invisibles, il y a ce que vous appelez les névroses de destinée qui sont liées à des répétitions de comportements qui peuvent paraître un petit peu insolites, un peu bizarres. En quoi consistent ces névroses ?
Alors, elles aussi sont souvent, orientées par des éléments invisibles. La névrose destinée, c'est la reproduction, des fois à plusieurs reprises, d'attitudes ou de comportements ou de choix de vie qui sont préjudiciables et que pourtant on refait à l'infini. Et donc une personne qui a trouvé un conjoint alcoolique et violent s'en sépare, elle en retrouve un autre qui est du même format et on se demande mais quelle est cette comment ça se fait? Et tout simplement, il y a une orientation par ou des aspects éducatifs ou des aspects de les premiers aspects de l'existence qui font que cette reproduction est une sorte de machine infernale. Voilà une névrose destinée.
Alors vous parlez, pour l'expliquer aussi, vous faites allusion à cette notion de masochisme qui doit peut-être être pris comme une conséquence de la petite enfance, l'éducation.
Votre remarque est absolument juste, c'est-à-dire que un certain nombre de jeunes ont eu une première enfance avec des parents soit lointains, soit hostiles, soit présents pour le matériel et strictement absents pour tout ce qui est affectif et sentimental, soit violents. Et cette violence, ou ces éléments-là, vont représenter une sorte de matrice qui va les orienter dans l'existence, y compris dans leur choix de partenaire.
Voilà. Et qui vont, quelque part, les maintenir dans...
Les fragiliser, en tout cas.
Les fragiliser et les maintenir dans une sorte de cercle vicieux.
Oui, et leur donner des repères dont ils vont souffrir.
Voilà. Voilà. Alors, j'ai bien aimé, ensuite, lorsque vous parlez de l'amour. Par rapport à la notion de destin, vous dites « l'amour, c'est l'aiguilleur du ciel d'un nouveau destin ». Alors, est-ce que c'est valable dans tous les cas ?
En tout cas, les coups de foudre représentent sans doute les changements, les moments de changement de vie les plus radicaux de l'existence. Et une manière d'orienter sa vie de manière très différente. Alors, je ne donne pas cet exemple... dans le livre, mais permettez-moi de prendre quelques secondes pour une anecdote qui est citée par une journaliste qui raconte l'histoire de sa grand-mère. Donc sa grand-mère habite au Maroc, elle fait un tournoi de golf et elle voit un homme de dos qu'elle trouve exceptionnel. Elle ne l'a pas vu de face. Puis l'homme se retourne, ils ne se connaissent pas et elle ne connaît pas du tout cet homme, elle en tombe amoureuse. Elle apprendra, parce qu'elle ne sait pas qui est cet homme, qu'il s'agit de Sean Connery, qui est l'acteur des James Bond. Et ces deux personnes vont se séparer de leur conjoint et vivre ensemble une trentaine d'années. Et c'est la petite fille de cette dame, qui s'appelle Michelle Roquebrune, qui est journaliste, qui raconte l'histoire de sa grand-mère.
D'accord. Alors, vous parlez de l'amour en disant qu'effectivement, il y a un certain nombre de déclinaisons et d'explications d'amour qu'a priori on ne peut pas comprendre d'une manière générale. Et vous faites allusion à la fascination de certaines personnes pour des êtres morbides. C'est une autre explication ou un autre exemple de la force de l'amour dans le destin et qui s'explique sans doute pour d'autres raisons, je suppose.
Vous savez qu'un certain nombre de criminels en série ont contracté des mariages alors qu'ils sont en prison auprès soit de personnes visiteuses, soit tout simplement de personnes qui étaient fascinées par leur histoire de vie. Et ça montre quelques-unes de ces logiques invisibles suscitées par l'amour ou d'autres facteurs.
Voilà. Alors, donc, nous avons parcouru donc, ces logiques visibles et invisibles. Et ensuite, il y a donc des manières par rapport au fait d'essayer de réinventer sa vie. Et vous parlez notamment que le problème se pose dans ce qu'on appelle le passage dans la crise de la quarantaine. Alors, pourquoi ça se passe à mi-vie? Comment on se pose cette question? Pour quelles raisons? Et pourquoi ça survient justement à mi-vie, le questionnement?
Alors, c'est là une quarantaine élargie qui peut être aussi une cinquantaine. Je n'oublie pas que je suis à Radio Présence et que le démon de midi frappe le moine qui s'est levé extrêmement tôt, qui a commencé à prier, à avoir des activités, et qui, en milieu de journée, est moins enclin à la concentration et à la prière. Et cet état est considéré comme une preuve de l'existence du diable, c'est-à-dire une distraction par rapport à la règle de Saint Benoît, par exemple. Et donc, dans la vie, non pas monacale, mais de tous les jours, à un moment, il y a une réflexion, souvent en milieu de vie, sur qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il me reste à faire, et source d'une orientation différente de son existence.
Et donc, c'est une. On peut aussi peut-être analyser le sujet en disant qu'on prend conscience, comme vous le dites, d'une finitude de l'existence et que c'est le moment ou jamais. C'est peut-être la crise de la quarantaine élargie et peut-être un bon kéros.
Exactement.
Hein, là, voilà. Alors, vous parlez aussi de détonateurs intimes du destin et de petites étincelles disruptives.
Oui. Alors, dans ces détonateurs intimes, on vient de parler du coup de foudre. On peut aussi parler... des fois, l'ennui est un détonateur intime.
Ouais.
C'est-à-dire une sorte de perception.